1347, la défaite fatale à La Roche-Derrien, la capture de Charles de Blois. En juin 1347, Charles de Blois assiège La Roche-Derrien, une ville fortifiée du Trégor, située sur les rives du Jaudy, un fleuve marin encaissé et difficile d'accès, alors tenu par les Anglo-Bretons. Confiant dans ses forces, il installe son camp principal sur la rive gauche et ordonne aux troupes gardant le pont principal de ne pas bouger, même en cas d'alerte. Il néglige ainsi les accès secondaires et sous-estime la manœuvre ennemie. Les Anglais empruntent alors des sentiers forestiers pour contourner le dispositif, traversent le Jaudy plus en amont, dans la nuit du 20 juin, lancent une attaque surprise sur le camp endormi. Leur assaut coordonné, guidé par un mot de passe, essentiel pour éviter toute confusion ou affrontement entre leurs propres hommes dans l'obscurité, plonge le camp de Charles dans le chaos. Au même moment, la garnison assiégée sort du château et prend l'ennemi à revers. Pris en étau, Charles de Blois livre bataille avec l'ardeur des preux chevaliers, mais son manque de clairvoyance tactique scelle son destin. Grièvement blessé, 17 blessures au corps, il est finalement capturé. Il fut soigné, puis emprisonné en Angleterre pendant plusieurs années, avant que des négociations ne s'engagent pour sa libération. Cette défaite porte un coup sévère à la haute noblesse bretonne, en grande partie décimée lors de cette bataille. À cela s'ajoute la disparition de milliers d'hommes d'armes et de soldats de rang. Une Bretagne sans duc. Charles est prisonnier. Jean, futur Jean IV, est en exil. La Bretagne est déchirée. Pas par les vents ni les marées, mais par les hommes. Les terres sont morcelées. Chaque camp tient ce qu'il peut, défend ce qu'il lui reste. Dans ce chaos, les partisans de Blois se tournent vers Jeanne de Penthièvre. Avec Charles captif, c'est elle qui prend les rênes. Philippe VI lui envoie des gouverneurs, mais Jeanne garde la main. Rien ne se décide sans elle, ni la libération de son mari, ni la conduite du duché. Privée de chef de guerre, elle ne peut plus lancer d'offensive, d'autant que les caisses sont vides. Désormais, ce sont les troupes du roi de France qui tiennent le front pour sa cause. Elle reste en arrière. Elle administre, organise, négocie, lève des fonds. En face, les montfortistes s'organisent. J'en ai qu'un enfant, toujours exilé. Sa mère, Jeanne de Flandre, est en résidence surveillée. Confiée à la garde du connétable du château de Tickhill, une forteresse située dans le nord de l'Angleterre, à plusieurs centaines de kilomètres de Londres, loin, très loin, trop loin de son fils. Ce n'est ni pour des raisons diplomatiques, ni pour des troubles mentaux, comme l'a avancé au XIXe siècle l'historien Arthur de la Borderie. C'est une mise à l'écart politique. Elle incarnait une autorité que le roi ne pouvait tolérer. Trop active, trop indépendante, trop loyale à sa propre cause. Elle avait agi, pour une Bretagne alliée mais non soumise. Il avait surveillé. Désormais, elle est écartée. Et peu à peu, son nom s'efface. Loin des champs de bataille, loin des décisions, elle disparaît des récits officiels. Ce sont désormais les lieutenants anglais qui règnent au nom de son fils en Bretagne, tenant les places fortes montfortistes, contrôlant les routes, prélevant les impôts.